Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Deux heures d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine, tous les jours jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une donc, Emmanuel Macron qui a très envie d'emmerder les non-vaccinés, ce sont ses mots. On verra justement ce qu'en disent les intéressés. Dans ce journal également, un enfant de 5 ans, victime d'un incendie à Marseille. Et puis on ira en Australie, où l'arrivée prochaine de Novak Djokovic vire, figurez-vous, à la crise politique.
Et on reviendra bien évidemment à partir de 12h40 sur cette interview. Il n'y a pas que la phrase « je veux emmerder les non-vaccinés », il y a également cette phrase qui fait polémique. « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable n'est plus un citoyen. » Elle est peut-être encore plus forte cette phrase et on la décryptera tout à l'heure.
Et puis notre question du jour, les non-vaccinés, justement, j'ai très envie de les emmerder. Emmanuel Macron a-t-il eu raison? Vous dites oui à 45%, non à 54%. C'est assez partagé, vous pourrez bien sûr réagir au 3210 dès 13h. La météo, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Alors vous nous aviez promis du froid, il est bien là.
Ah bah ça c'est sûr, et c'est vrai qu'on a eu froid ce matin, on aura encore froid cet après-midi, même si on revient à des normales de saison, de 5 à 9 au nord, de 7 à 16 degrés au sud. Côté ciel, ça reste nuageux sur les reliefs avec de la neige à basse altitude, plus nuageux sur les frontières du nord, et entre la Côte d'Azur et la Corse avec des averses, et puis le ciel est bien dégagé près de la Méditerranée, mais il y a beaucoup de vent, et entre nuages et éclaircies partout ailleurs.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, parole donc à ces non-vaccinés qu'Emmanuel Macron a très envie d'emmerder. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
Vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'un des départements où le taux de vaccination est le plus bas, 79,8% contre 91,7% au niveau national. Et quelles sont les réactions sur place ?
Eh bien, au-delà des propos d'Emmanuel Macron, c'est le fait d'être ostracisé par leur président de la République qui choque les personnes qui ne sont pas vaccinées ce matin. C'est en tout cas le cas de Lina et Cyril que j'ai croisés dans la matinée dans le village de Valensole.
Ben, on nous met dans des cases, en fait, alors qu'on devrait être tous égaux. Donc, non, je trouve pas ça normal. Il va tout faire pour nous emmerder, en fait, ouais, c'est ça. Plus pouvoir rien faire du tout. Même les courses et compagnie, à tous les coups, on va y passer, hein. Limite, on n'est plus français, quoi. Plus citoyen, non, c'est pas normal.
C'est un système d'oppression. Voilà, ils nous pressent jusqu'à ce que tout le monde craque, quoi. Là, je craquerai pas.
Pareil, pas de resto, on fait des pique-niques, pas de théâtre. Y a Netflix, tant pis, on passe le temps comme on peut, mais non, pas de vaccin.
Alors, on me signale ici quand même que plusieurs personnes non vaccinées, plusieurs anti-vax ont cédé au cours des derniers mois, hein, sous la pression forcément de la société, du gouvernement. Mais les déclarations d'Emmanuel Macron ont également choqué les personnes qui sont vaccinées, comme Mireille, tout simplement.
Eh bien, moi, je suis choquée déjà de l'utilisation du vocabulaire, parce qu'au niveau d'un président, il y a des termes qui ne s'utilisent pas. On peut exprimer une pensée, une opinion, on n'a pas à être vulgaire.
Voilà, maintenant, ce sera à voir quelles nouvelles mesures seront mises en place pour forcer les non-vaccinés à passer le pas.
Hugo Hamelin, en direct de Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence. Décryptage politique à présent avec vous, William Galibert, bonjour.
Bonjour.
Cette phrase, Emmanuel Macron l'a prononcée face à des lecteurs du Parisien et pas n'importe quels lecteurs.
Oui, en l'occurrence, à une infirmière et à une cadre qui travaille dans un EHPAD. C'est face à elle que le président a choisi ce ton, ce langage. Et elles n'ont pas du tout été choquées. L'interview a été relu par l'Élysée, validé. Donc Emmanuel Macron savait très bien ce qu'il faisait, avec au fond toujours la même idée, dire « la grande majorité des Français pense comme moi, parle comme moi, et il n'y aura que les commentateurs pour s'en offusquer ».
Et dans la majorité, justement, tout le monde valide ?
Non, et il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des députés pas très à l'aise, voire carrément fâchés. L'un d'eux s'emporte. Le président dit qu'il a appris, qu'il faut apaiser, et puis voilà, ça nous met dans la merde, lâche-t-il, on reste dans le même vocabulaire, des députés fâchés, parce qu'après cette interview hier soir, les débats à l'Assemblée sur le pass vaccinal ont viré au grand n'importe quoi.
Et même Édouard Philippe, ce matin, n'apportait pas un soutien franc et massif, voilà, j'ai trouvé en l'écoutant.
Il faisait un éloge de la nuance.
Exactement. Alors, cette interview ne se résume pas à cette seule phrase, il y avait 6 pages au total.
Oui, et une autre phrase qui aurait dû faire les gros titres, quasiment sa déclaration de candidature, il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie, tout est dit, mais Emmanuel Macron explique qu'il attend que les conditions sanitaires s'améliorent et puis déjà peut-être des ébauches d'un futur programme avec des pistes autour de l'augmentation du salaire des enseignants, d'une réforme des droits de succession ou encore sur les impôts qui, dit-il, n'augmenteront pas tant qu'il sera président.
William Galibert du service politique de RTL, la vaccination au sujet de tensions, on le sait, aux Antilles. Nouvelle illustration avec cette séquestration la nuit dernière en Guadeloupe. Le patron du CHU et l'un de ses adjoints ont été retenus pendant plusieurs heures, Guillaume Chiez.
Ouais, une cinquantaine de manifestants anti-vax s'étaient réunis devant leur bureau. Parmi eux, des soignants suspendus pour refus de vaccination venus réclamer le versement de leur salaire. La police finit par intervenir pour exfiltrer le directeur et ses deux adjoints. C'est à ce moment-là qu'ils sont agressés par les manifestants. Plusieurs vidéos de la scène ont circulé sur Internet. Au cri d'assassin, le directeur est frappé aux côtes et au visage. Selon un communiqué du CHU, il aurait même brièvement perdu connaissance. L'adjoint, lui aussi, a reçu des coups, sa chemise déchirée. Un véhicule a également été pris d'assaut. Les agressions ont duré quelques secondes avant que le calme ne revienne. Pour l'heure, aucun manifestant n'a été interpellé.
Police-justice de RTL. Pour eux, la vaccination est ouverte depuis le 22 décembre et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça avance doucement. À peine 1% des 5-11 ans ont reçu une première dose. C'est une info RTL. Ça représente 72 000 enfants, y compris les plus à risque, sur près de 6 millions. Pas surprenant, dit ce matin la présidente de la Société française de pédiatrie.
C'est pas ultra étonnant que ça démarre doucement. Les pédiatres et les médecins généralistes, c'est eux qui connaissent bien et le geste et l'approche. Et donc, il leur a été donné la possibilité de commencer à commander les doses, mais il y a très peu ou pas encore de médecins libéraux qui vaccinent des enfants. C'est en train de se mettre en place. Il y a surtout l'idée que jusqu'à présent, cette maladie, elle n'a pas inquiété les parents pour leurs enfants. Ce qui les inquiète plus, c'est de les voir manquer l'école et devoir s'organiser pour les faire garder quand les classes sont fermées. Mais le Covid et la santé de leurs enfants, c'est vraiment pas une préoccupation qu'on ressent comme une inquiétude majeure.
Christelle Gras-Le-Gouen, la présidente de la Société française de pédiatrie, joint pour RTL par Odile Pouget.
Dans l'actualité également, ce dramatique incendie à Marseille.
Le feu a pris dans une cité insalubre des quartiers nord. Un enfant de 5 ans est mort brûlé, Étienne Baudu.
Ah oui, c'est un drame absolu. Le petit Ismaïl est mort brûlé vif dans l'incendie de l'appartement familial au 9e étage. Le premier appel aux marins-pompiers tombe à 7h40 ce matin. C'est la femme de Mohamed qui appelle. Mohamed, le voisin de palier, a lui déjà enfoncé la porte avec un ami.
La porte ouverte, on a trouvé le feu au salon. Donc là, on a appelé nos femmes, ils ramènent de l'eau, on jette au salon. Et c'est là où j'ai commencé à entendre des petits pleurs dans les chambres. Et moi, j'ai dit aux petits, il ne faut pas sortir, fermer les portes. Donc on jette toujours l'eau, on jette toujours l'eau. Et là, les petits parlent plus. Parce qu'ils pleurent, après ils ont arrêté de parler. Je savais que c'était la fumée qui tout fait. C'est choquant. Moi, je le vis naître, je connais la famille, c'est comme ma famille.
Le bilan est donc très lourd. Un mort, Ismaël, sa sœur de 6 ans en urgence absolue, sa cousine de 2 mois dans un état grave. Une autre sœur, ses parents et sa tante ont eux été transportés à l'hôpital, intoxiqués par les fumées. Reste maintenant à connaître les causes exactes de l'incendie. Mais cette cité des Rosiers est une copropriété privée qu'on appelle ici la cité de l'enfer. Elle cumule tous les maux, trafic en tout genre, insalubrité, des propriétaires plus qu'indélicats et des marchands de sommeil.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Le scandale de la Dépakine à présent. Avec cette première victoire pour les familles de victimes, la justice valide l'action groupe intentée par plusieurs milliers d'entre elles. C'est une première dans l'histoire judiciaire médicale en France. Elle estime par ailleurs que Sanofi a bien commis une faute en manquant à son obligation d'information. Écoutez, Charles-Joseph Houdin, c'est l'avocat de l'association qui regroupe les familles des victimes de cet antiépileptique.
C'est un immense soulagement pour les victimes. Une décision de justice écrit et reconnaît la faute du laboratoire Sanofi qui a manqué à son obligation de vigilance et à son obligation d'information. Le tribunal va plus loin. Le laboratoire Sanofi a commercialisé un produit défectueux. Cette décision va faire l'objet d'un appel et le laboratoire, fidèle à sa stratégie, continue les procédures judiciaires. Donc nous continuerons le combat pour faire reconnaître la responsabilité du laboratoire. Mais c'est une très belle décision et très importante décision.
Maître Houdin au micro RTL d'Agathe Landais. Entre 15 000 et 30 000 enfants auraient été victimes de malformations suite au traitement pris par leur mère pendant leur grossesse.
On change de sujet, le retour du froid, on l'a tous constaté ce matin.
Et c'est un cauchemar pour tous ceux qui ont du mal à se chauffer. Un Français sur 5, parmi eux Sébastien qui vit dans l'Oise, seul dans une maison de 48 mètres carrés.
Elle n'est pas du tout isolée. Il y a des courants d'air qui passent dans la maison. Quand je ne mets pas le chauffage, il fait 8 degrés. Et quand j'allume les chauffages, quand je rentre, il y a à peu près 13 degrés au sol. Vous allumez les chauffages pour avoir chaud et vous avez 13 degrés. Alors le problème aujourd'hui, c'est que bon, bah, je suis à tout électrique et en fait, j'ai une mensualité de 200 euros par mois d'électricité. Bah, j'alterne entre l'électricité et le poêle à pétrole. Voilà, j'essaye de courir après les promotions sur les bidons de pétrole. Donc c'est tout un petit stratagème pour essayer de faire des économies. Et pour passer l'hiver, oui, bien sûr, je vais avoir froid, quoi. Voilà.
Un témoignage recueilli pour RTL par Aurélia Valarié. Les obsèques des frères Bogdanov auront lieu lundi après-midi à Paris. Cérémonie en l'église de la Madeleine à 15h. Les frères jumeaux décédés du Covid à 6 jours seulement d'intervalle seront inhumés dans la plus stricte intimité. C'est ce qu'indique la famille.
Et Novak Djokovic.
Oui, il annonçait hier qu'il allait pouvoir disputer l'Open d'Australie, qu'il avait reçu une dérogation pour se rendre sur place. Les choses en réalité ne sont pas si simples. Bonjour Isabelle Langer.
Bonjour.
Le Premier ministre australien s'est même emparé du dossier.
Ah oui, et Scott Morrison n'a pas mâché ses mots. Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic, a-t-il dit avant de poursuivre. J'exige la preuve que sa dérogation médicale est bien justifiée. Si cette preuve est insuffisante, alors il retournera chez lui par le premier avion. Voilà qui est clair. L'exception dont bénéficie le numéro 1 mondial ne passe pas en Australie, particulièrement à Melbourne, qui a vécu les plus longues périodes de confinement au monde depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, le directeur du tournoi, Greg Taylor, conseille à Djokovic de montrer patte blanche en arrivant.
Je pense que ce serait judicieux que Novak explique les conditions dans lesquelles il a demandé puis obtenu cette exemption. Mais au final, c'est lui qui décide. Toutefois, je l'encourage à parler de ça avec la communauté. Je pense que ça pourrait l'aider de parler aux fans. Parce que nous sommes dans une période difficile depuis 2 ans et ce serait appréciable qu'il le fasse.
Gageons d'ailleurs qu'à son arrivée à Melbourne, le comité d'accueil ne sera pas forcément convivial pour Djokovic, tout numéro un mondial qu'il est.
Merci beaucoup Isabelle Langer. Cet Open d'Australie, on le rappelle, débute le 17 janvier. On aura donc sans doute largement l'occasion d'en parler.
L'interview d'Emmanuel Macron, elle fait parler depuis hier soir 22h. Benjamin Sportouche, qui est le chef du service politique d'RTL, est là avec nous. Il va tout nous dire. Bonjour, parce Pascal. Que ce n'est pas une phrase qui a été dite au hasard. Elle est sans doute pensée, réfléchie, conceptualisée. Quoique. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse. Merci. 12h42, bonne année, également, monsieur Sportouche. Ça me fait plaisir que vous soyez là. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que c'est jamais bon de. C'est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. J'ai acquis une chose, c'est qu'on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens.
On peut bouger les choses sans blesser les gens. Ça, c'était le 15 décembre dernier sur TF1. Emmanuel Macron regrettait certaines de ses phrases jugées blessantes. 3 semaines plus tard, le président se dit déterminé à emmerder les non-vaccinés. J'en ai très envie, explique-t-il. Alors, est-ce un coup politique, une manière d'entrer en campagne? Et si oui, est-ce réussi? C'est le premier débat d'RTL Midi. Avec nous, Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et Bruno Cotterès, politologue et chercheur au CVPOF. Bonjour Bruno et merci aussi à vous. Bonjour. D'être en direct avec nous. Benjamin, d'abord, se emmerder, ça lui a échappé?
Écoutez, c'est possible que ça lui ait échappé, mais en tous les cas, c'est assumé. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, il a eu ce mot, on nous dit, voilà, c'est ce que pense le président, parce que c'est aussi ce que pensent les Français. Et depuis quelques jours, qu'est-ce qu'on entend dans les ministères? C'est qu'en effet, les non-vaccinés, eh bien, en ont assez qu'il y ait cette petite proportion de Français qui envahissent les réanimations. Et donc, c'est monté jusqu'à l'Élysée, et donc ça a été intégré par le président de la République. Alors, est-ce qu'il devait aller jusqu'à ce mot? Peut-être pas, mais maintenant que c'est fait, il l'assume, même si à l'Élysée, on nous dit de contextualiser. Et avec ce message, c'est aussi dans l'intérêt des non-vaccinés qu'il le dit. Ça, c'est plus compliqué, c'est sûr, à accepter pour ceux qui sont concernés.
Bruno Cotterès, il y a très nombreuses réactions. Au-delà du fond, beaucoup critiquent la forme, ce mot, donc emmerder. Un président ne devrait pas dire ça, vous dites ça vous aussi?
On a vu régulièrement chez Emmanuel Macron la volonté de jouer un peu l'effet de contraste entre le profil général d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu au fond du système méritocratique un peu élitaire français, quelqu'un qui est un fin lettré, qui va très souvent choisir ses expressions, mettre beaucoup de contenu, mettre des références, même souvent littéraires dans ses discours, et puis alors régulièrement avoir des expressions qui veulent coller à une France un peu plus populaire. Il s'adresse aux lecteurs du Parisien, quotidien qui est censé avoir un lectorat un peu plus populaire que Le Monde ou que Le Figaro. Dans la même interview ce matin dans Le Parisien, il dit que si on n'a pas le pass sanitaire, on pourra plus aller boire des canons non plus au bar. Donc on voit une volonté pour le chef de l'État aussi d'employer un vocabulaire et un registre de vocabulaire qui se veut un peu plus proche des Français.
Il n'y a qu'une question, et je vous la pose à tous les deux, que chacun se pose ce matin, c'est est-ce que ça le sert ou non ?
Bien, vous voyez bien, dans le sondage qu'on a, enfin dans ce baromètre qu'on a, c'est clivé.
Oui, la question qu'on pose sur Internet, qui n'est pas un sondage.
Alors, c'est pas un sondage, mais est-ce que cette phrase va infuser positivement pour lui, ou est-ce qu'elle va déclencher une forme de rejet dans l'opinion ?
Ben écoutez, on va voir dans les sondages. En tous les cas, dans l'immédiat, ce qui est envisagé, ce qui est espéré par l'Élysée, c'est qu'au contraire, ça lui permette de souder son camp. C'est ça qu'on cherche avant même l'élection. De se démarquer, de cliver, d'exister. Il n'est pas encore candidat, mais ce qu'on nous dit à l'Élysée dans son entourage, c'est qu'il ne va pas rester en permanence en surplomb jusqu'à la date de candidature qui pourrait arriver.
Ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Votre avis, Bruno Cotterêts, vous qui avez une expérience du terrain et des sondages, bien sûr, que vous représentez, et des campagnes présidentielles.
Je ne crois pas que ça va aliéner à Emmanuel Macron une partie de l'électorat, parce qu'au fond, ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est surtout progressivement de baliser le chemin de son annonce de candidature pour 2022, et on voit se multiplier progressivement des marqueurs importants. On a eu le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe, on a maintenant cette interview au Parisien, et on a un Emmanuel Macron qui progressivement est en train d'afficher la couleur. Il est toujours cet Emmanuel Macron qui se veut disruptif, et c'est vrai que pour son cœur d'électorat,
vous pensez donc que ça va le servir, mais
important.
Moi j'observe depuis hier soir que la petite classe médiatique, les éditorialistes, les observateurs, même les hommes politiques, tout le monde tombe à bras raccourcis sur
mais
cette phrase.
Mais c'est pas
phrase.
La France.
Ben voilà. Elle
pas
a raison,
forcément.
Mais c'est pas la France.
Pas forcément.
Oui, et puis c'est un peu le but du jeu pour Emmanuel Macron, qui est justement de réactiver quelque chose qui est... Ben, Emmanuel Macron est toujours, malgré 5 ans d'exercice du pouvoir, il s'inscrit toujours dans le registre de la disruption. Il est celui qui veut faire bouger la France, celui qui veut faire bouger les lignes. Et donc ça, c'est très important pour lui, alors que, ben, voilà, il est en train progressivement de baliser le chemin vers sa déclaration de candidature.
Alors, il y a une autre phrase qu'on a peut-être moins commentée. Je vous la lis ou je vous la relis. Les antivax, dit Emmanuel Macron, viennent saper ce qu'est la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens irresponsable. Un irresponsable n'est plus citoyen. Elle est peut-être encore plus forte, cette phrase-là, Benjamin.
Oui, elle est très forte, mais encore une fois, ça vient s'inscrire dans un contexte. Mmh. Qu'est-ce qu'il regarde, le président de la République ? Les sondages. Et que disent les sondages ? C'est qu'une grande partie des Français est exaspérée par le fait qu'il une petite proportion minorité de non-vaccinés qui viennent enrayer le système et le fonctionnement de l'hôpital.
Et un président peut décréter qui est citoyen, qui ne l'est plus
En tous les cas, à ce moment-là, ce qu'il dit, oui, c'est qu'il y a une forme d'irresponsabilité parce que ça empêche, par exemple, les déprogrammations.
Sauf Benjamin, ce qu'il ne dit pas, la vaccination, c'est les déprogrammations. N'est pas obligatoire, permettez-moi de le rappeler quand
Alors,
même.
Alors, il l'explique,
celui qui ne se fait pas vacciner n'est pas un délinquant. Il faut quand même le rappeler. Ou alors, vous passez avec la vaccination obligatoire et à ce moment-là vous êtes hors la loi si vous êtes non vacciné.
Ce qu'il ne veut pas faire pour l'instant, on ne dit pas que dans les prochains mois ça ne sera pas le cas, c'est donner des amendes. C'est qu'il dit qu'il ne veut pas judiciariser le processus.
Parce qu'il dit qu'on ne peut pas contrôler.
Exactement, et que ce serait très compliqué. Donc là il y a une incitation très forte, maintenant il y a une contrainte et il y a une pression politique et morale très très forte aujourd'hui.
Bruno Cotterêts, un irresponsable n'est plus un citoyen, ça vous inspire quoi ?
C'est pousser le bouchon très loin. Je dirais
très loin.
Oui, sans aucun doute. On voit bien. C'est un problème qu'on connaît bien. C'est un vieux problème de philosophie politique qui est jusqu'à quel point je peux exercer ma liberté. C'est une vieille question de la philosophie politique. Au fond, il y a un point aveugle dans l'analyse que fait le chef de l'État. Une partie de ceux qui refusent encore aujourd'hui la vaccination, qui considèrent que le pass vaccinal c'est un cran trop important. Une partie de ceux-là, ils ont surtout un sentiment de défiance politique, de sentiment d'injustice sociale. On l'a étudié, nous, avec les enquêtes du CEVIPOF, et on voit que l'attitude négative vis-à-vis de la vaccination, elle est très corrélée à la fois au sentiment que le système, que c'est asymétrique. Au fond, le système vous demande quelque chose et lui, il n'est pas juste avec vous. Et puis, il y a aussi un sentiment que le système n'est pas assez démocratique, que le chef de l'État décide de tout seul, de manière trop verticale. Et donc, évidemment, dans une partie de ceux qui sont toujours aujourd'hui contre la vaccination, il y a ce double sentiment, à la fois d'une société injuste et d'un système démocratique qui fonctionne pas bien.
Et on peut être non vacciné et pas forcément contre la vaccination. C'est ce que nous expliquera Sophie Orange, parce qu'il y a des non vaccinés qui sont non vaccinés parce qu'ils sont loin de tout et qu'ils ont du mal à se faire vacciner. Il aurait pu dire « je veux emmerder les anti-vax », ce qui eût été peut-être différent. Merci Bruno Cotresse, merci à Monsieur Sportouche, même si vous allez rester avec nous.
Avec plaisir.
Pour la première fois de l'année. Et vous allez pouvoir dialoguer avec les auditeurs qui vous attendent. Vous savez, on m'a beaucoup parlé pendant les vacances. Vous êtes une présence récurrente dans les auditeurs.
Merci de me flatter.
Mais non, mais je vous en prie, comme Sophie Orange, d'ailleurs. Mais bon, et cette année...
Sophie, vous risquez de devoir rester.
Non,
mais si, je veux bien.
Bon, pas aujourd'hui. Bon, il est 12h51, mais ça va être formidable parce que vous nous décryptez effectivement ce qui se dit à l'Élysée, se passe à l'Élysée. 12h51, la pause, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
À celles et ceux qui ne seraient pas vaccinés, il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes.
Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non-vaccinés. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mettent en risque la vie de tout un pays.
Ils sont depuis plusieurs semaines déjà la cible du gouvernement. Emmanuel Macron veut désormais les emmerder jusqu'au bout. Ce « ils », vous l'avez compris, ce sont les non-vaccinés, encore un peu plus de 5 millions de Français. Alors qui sont-ils? Des militants ou pas seulement? C'est le deuxième débat d'RTL Midi avec nous. Sophie Orange, bonjour Sophie.
Bonjour à tous.
Et le docteur Jérôme Marty, merci docteur d'être en direct avec nous. Sophie,
bonjour.
Bonjour, je me tourne d'abord vers vous Sophie. Qui sont ces quelques 5 millions de Français?
Alors, il y en a 500 000 déjà qui ont plus de 80 ans. Sans doute des personnes très, très isolées, sans beaucoup de contacts. Elles ont reçu des SMS, des mails, des lettres de l'assurance maladie, des bons de transport, une possibilité de se faire vacciner à la maison, mais ce chiffre, il descend très peu. Donc ça, c'est, j'allais dire, une petite exception dans ces 5 millions. Après, il y en a environ 1 million par tranche d'âge. Et le plus de non-vaccinés, c'est finalement chez les jeunes entre 30 et 49 ans. Après, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en fait, les anti-vax purs et durs, c'est-à-dire les complotistes, pour résumer, mais en fait, ils ne représentent que 2, 3, 4%, sans doute pas plus de 5%, voilà, sur ces 5 millions. Donc, ce n'est pas énorme. Et après, il y a l'énorme majorité, donc, des personnes qui se posent des questions. Et alors, quand on regarde les questions ou les doutes, les interrogations, c'est intéressant. Par exemple, Santé publique France a fait une enquête à l'automne, en octobre-novembre. La première raison pourquoi je ne me fais pas vacciner, les vaccins ne sont pas sûrs. Alors que depuis quand même des mois et des mois, les études montrent que les vaccins sont sûrs. La deuxième inquiétude, les informations transmises sont contradictoires. Troisième inquiétude, enfin, ou troisième état d'esprit, 43%, c'est énorme, préfèrent d'autres moyens de prévention que la vaccination. Je serais curieuse de savoir quels sont les moyens de prévention contre la vaccination, à part le vaccin, contre la maladie, à part le vaccin.
Tu restes chez toi, par exemple.
Non, ou alors il y en a qui, objectivement, je pense que le docteur Marty en voit, des personnes qui disent je prends des graines, ou je bois des tisanes, ou des choses comme ça.
Docteur Marty, vous les voyez justement dans votre cabinet, ces non vaccinés?
Bien sûr, on en voit. On en voit de façon tout à fait régulière.
C'est quel profil, ce que vous voyez?
Le profil, vous l'avez dit, il est complexe d'abord, le profil. Là où vous avez raison, il y a en fait très peu d'antivax, on va dire, prosélytes. D'antivax qui vraiment sont ce qu'on pourrait appeler les désinformateurs. Il y a des désinformateurs et puis il y a des gens qui souffrent de désinformation. Ça, c'est dans le groupe antivax. Et puis après, dans le groupe non-vax, vous avez des gens qui sont dans le doute, vous avez des gens qui sont exclus de la vaccination, les gens qui ont des contre-indications, les gens, vous en avez parlé, qui sont âgés, dépendants physiques, psychiques, qui n'ont pas été atteints encore. Et puis vous avez des gens dans cela qui sont exclus indirectement parce qu'en lien avec des antivax. Je veux dire que vous pouvez avoir des patients sous curatelle ou des patients dépendants d'une personne de confiance dont la personne de confiance refuse la vaccination.
Et ceux qui doutent encore, il y en a, vous arrivez à les convaincre ceux-là ou malgré tout c'est...
Ceux qui doutent, on arrive, clairement ceux qui doutent, on arrive à les convaincre parce que ceux-là ne sont pas tombés, ne sont pas victimes de la désinformation. Ils sont vraiment dans un doute, est-ce qu'on a assez de recul, vous l'avez dit, est-ce que ce vaccin ne va pas provoquer des effets secondaires? Donc ils sont accessibles à la discussion et le soin, ça se construit à deux. Donc progressivement, en discutant, on arrive à faire tomber les choses. Par contre, ceux qui sont victimes de la désinformation, et là où le gouvernement est coupable, c'est qu'il a laissé s'installer des désinformateurs qui se sont structurés, qui ont industrialisé cela, et qui aujourd'hui ont fait tomber tout un tas de gens de ce côté-là. Alors, ils sont peu nombreux, c'est vrai, mais ils existent.
Ce qu'il faut dire, pardon, juste un chiffre, Pascal, Dr Marty disait, voilà, on arrive à en convaincre quelques-uns, chaque jour, il y a 20 000 nouvelles injections, enfin, premières injections. 20 000, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais de 20 000 en 20 000, voilà, ça baisse un petit peu, mais ça reste assez peu.
Non, mais j'ai les chiffres de la mortalité de décembre. Et donc il y a 4 462 personnes qui sont mortes à l'hôpital. Entre 0 et 19 ans, il y a zéro décès. Donc j'ai 18 ans. Je vais voir le docteur Marty. J'ai 18 ans, 19 ans. Je comprends que j'ai aucune probabilité de mourir, ou en tout cas elle est infime. En même temps, je m'aperçois qu'il y a des contaminations partout. Donc je me dis, le vaccin, effectivement, il ne bloque pas la contamination. Je pourrais me faire vacciner pour protéger les autres, mais on s'aperçoit que ce n'est pas forcément efficace. Qu'est-ce que vous dites à ce jeune homme de 19 ans qui est dans votre bureau ?
Que la vaccination est un acte collectif, que la vaccination, même si elle ne bloque pas la transmission, elle la diminue par deux. On est contaminant, on est moins contaminant et on est contaminant moins longtemps. Donc ça vaut le coup de se vacciner. Qu'on ne sait pas quel variant on rencontrera demain, on n'est pas sorti encore de cela. Qu'il y a des patients de 19 ans malheureusement en réanimation, et il y en a dans toutes les réanimations, ils sont peu nombreux, mais il y en a.
Et en Covid long. Et en Covid long, et des malades atteints
de Covid long. Et en Covid long, évidemment. Donc, je veux dire, les chiffres masquent aussi des réalités. Il faut faire attention à ça. Si vous prenez l'exemple des enfants, c'est frappant, quoi. On a une augmentation d'hospitalisation chez les enfants, qui est une hospitalisation régulière. On a des syndromes inflammatoires multisystémiques qui surviennent 4 à 6 semaines après les Covid chez les enfants. Et ça peut être dramatique parce que c'est des choses graves, donc avec des séquelles. Donc voilà. Donc c'est des choses dont il faut tenir compte. Alors, c'est vrai que c'est rare, mais quand c'est votre gosse, c'est pas la même chose.
Docteur Marty, juste en un mot et pour terminer, dire haut et fort qu'on va les emmerder jusqu'au bout, ces non-vaccinés, ça peut être utile, ça, ou c'est contre-productif, d'après vous ?
Alors, pour être de ceux qui prennent des menaces régulièrement, je vais vous dire que c'est contre-productif. On a besoin d'union, on n'a pas besoin de lever les gens les uns contre les autres. C'est non seulement contre-productif, mais en plus, ça ne tient pas compte d'une réalité qui est celle de l'existence des informateurs, et c'est cela qu'il faut aller chercher. C'est pas les gens qui sont victimes. Nous, on a pour habitude de soigner les victimes. On n'est pas là pour qualifier les victimes de tel ou tel propos.
Merci, j'aurais aimé encore vous poser des questions, mais il est 12h59. Donc si vous voulez rester encore quelques minutes avec nous au tout début de 13h05, j'ai un problème avec la troisième dose, puisque je vois plein de gosses de 20 ans faire la troisième dose et être déclarés positifs 8 jours plus tard, monsieur Marty. Je suis cerné par ces gens-là, et on me dit qu'il y aurait des anticorps qui seraient favorisants, notamment chez les jeunes. La pause. Vous pourrez répondre tout de suite après. La pause. RTL Midi.